Lille, 18h.
Salut, c'est Lita Kira et je souhaite un merveilleux anniversaire à Radio Campus.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. On est ravis d'être avec vous sur Radio Campus 106.6 FM, DAB+, et le Reynald.
Et campusquille.com.
C'est magnifique. Et nous, aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer cette émission. Il y a même François, je suis accompagné, comme vous l'avez entendu, de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Jébémy.
Bonsoir.
Et de Dominique.
Salut.
Waouh. Alors aujourd'hui, on vous a préparé une petite émission qui est bien concentrée.
Hein,
voilà, c'est
comme d'habitude.
Effectivement, on va vous parler d'un événement qui nous tient à cœur puisque c'est un peu comme un parrain de l'émission,
exactement,
un partenaire, un événement qu'on a suivi depuis sa création. Donc on aura Mike du salon Ludigeek qui nous a consacrer un peu de temps et qu'on aura via un logiciel de communication, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on aura l'occasion de parler longuement du salon Ludigeek.
Qui se déroule la semaine prochaine, donc les samedis 16 et dimanche 17 à Lyon.
Effectivement. Et nous avons quelques petites news. Alors, on va faire un petit regard sur ce qu'on a pu faire ou visiter ce week-end. Et c'est vrai qu'il y avait un salon assez original à Wavrin. Dominique.
La Brick Expo Wavrin. Bon, alors tout est dans le titre. Hein. C'est un rendez-vous de fans de Lego. Des adultes fans de Lego. On appelle ça les AFOL. Adultes fans of Lego. Parce que c'est international. Bon, Lego, c'est partout dans le monde. Et effectivement, de temps en temps, ces gens-là, ils ne se contentent pas de jouer, de piquer les Lego de leurs gamins. Ils se rassemblent. Ils jouent ses... Et puis de temps en temps, il faut bien qu'ils se rencontrent pour montrer, partager leurs créations. Parce que c'est vraiment des purs créateurs. Et donc, ce salon qui s'est déroulé à Wavrin, donc ce samedi et ce dimanche, au moment où ça se passe, ils doivent être en train de ranger, de démonter leurs Lego. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. J'y suis allé hier, j'ai découvert un petit peu par hasard, sinon on les aurait peut-être invités avant. J'y suis allé samedi après-midi, en début d'après-midi, bon bah je vais faire un petit tour, une demi-heure, une heure, et puis je vais repartir. Résultat, j'y suis resté 4 heures. je sais pas que je suis retombé en enfance, mais pas loin. Je m'attendais à voir, comme parfois on en voit des expositions de Lego dans d'autres festivals, des gens qui ont un stade, qui font des belles expositions, on n'a même pas le droit de toucher. Et puis c'est tout. Mais en fait, non. Alors il y avait ça, il y avait des magnifiques maquettes, alors des œuvres d'art à ce niveau-là, c'est pas ça. Mais il n'y avait pas que ça, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont poussé plus loin le concept. Ils ont fait des tables où on pouvait jouer, bien sûr, utiliser les Lego, les manipuler, et grand comme petit d'ailleurs. Hein. Et il y avait des tas d'idées intéressantes. Il y avait, bien sûr, traditionnellement, des créations. Il y avait des trains qui marchaient, bien sûr, comme des bons trains de modélisme, et... plusieurs tables. François, tu y allais aujourd'hui, tu as pu constater des trains qui marchaient vraiment, commandés par ordinateur. En plus, ça atteint un niveau. Maintenant, le Lego, c'est plus...
Alors c'est ça, c'est, si vous repassez dans votre enfance, il y avait des fois des Lego un peu mécaniques.
Exactement, les fameux Lego Technics.
Effectivement, et les gens ont poussé le vice un peu plus loin jusqu'à en faire des trains. Alors c'est vrai que
tu as les trains, puis tu as les villes autour, et puis les décors et les petits personnages qui ressemblent des scènes entières.
Et c'est ça qui est génial, puisque si vous prenez du modélisme, bon, vous achetez le train, vous le posez électriquement, il part. Là, vous construisez votre train, vous mettez le moteur au bon endroit, etc. Ensuite, vous avez un petit logiciel de gestion qui permet de gérer les rails.
Exactement, les vitesses de chaque train, etc. Enfin, c'est impressionnant, c'est vraiment... c'est des fous, ces gens-là, quoi. Jamais le titre de notre émission aura porté aussi bien son nom. Et ce qui est génial, c'est que j'ai discuté avec Olivier, l'un des organisateurs et l'animateur du festival. Il me disait, jouer au Lego, c'est bien, mais quand tu reçois une boîte, moi, on m'a déjà offert des boîtes, effectivement, t'achètes la boîte de, je sais pas, la navette spatiale, j'ai n'importe quoi, tu vas prendre le plan, puis tu vas monter la navette spatiale ou la voiture, etc., en suivant le plan. Eux, pratiquement, ils reçoivent une boîte, ils jettent le plan. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est de la pure création. Ils ne se contentent pas de refaire. C'est ça. Des fois, ils achètent même plusieurs boîtes du même élément, du même décor, pour essayer de faire quelque chose d'encore plus grand. C'est vraiment la création à l'état pur. C'est vraiment des créatifs, ces gens-là. Il y avait les trains. Il y avait quand même une exposition qui racontait un petit peu l'histoire depuis des années, des Lego techniques, avec toutes les époques, avec des modèles qui, très très rares, on voyait même des modèles de personnages. On connaît tous les petits personnages Lego tout petits avec la tête jaune, etc. Mais il y a eu d'autres modèles qui sont sortis, qui ne sont pas restés longtemps, parce qu'ils n'ont pas eu de succès. Donc il y avait quelques pièces rares. Il y avait bien sûr une boutique, on pouvait acheter les fameux Lego. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des idées originales. Par exemple, il y avait une table où il y avait une seule brique, une petite brique bleue. C'est sans doute peut-être parmi toutes les milliards de pièces différentes.
C'est là
de
Lego. Où j'ai passé le plus de temps. Exactement. D'ailleurs.
C'est génial parce que c'est une idée géniale. Ils ont pris la même petite brique bleue avec les fameux citrous. Enfin, si vous avez eu des Lego en main, vous savez laquelle. Toutes de la même couleur. Il n'y a qu'une seule brique, mais en plein d'exemplaires. Et les enfants comme les grands étaient appelés à jouer sur ces tables, à créer des choses. C'est vraiment pour montrer que même avec une seule brique, on peut faire plein de choses différentes.
Alors tu avais un mont hein, avec des milliers de briques. Sur lequel les enfants et les parents bah, jouaient ensemble, fabriquaient une structure. Alors d'autres à droite faisaient un mur, d'autres faisaient un bâtiment. Et des fois, les gens se rejoignaient entre eux pour connecter leur oui, formation.
Si tu arrivais qu'il n'y avait pas de briques, bah, c'est pas grave. Tu pouvais même prendre des éléments, puis bah, le démonter, puis faire autre chose avec, etc. Moi, j'y suis allé hier, toi, tu y es allé aujourd'hui. Donc j'imagine que les structures... Je n'ai pas pris de photos, mais j'imagine que la structure aurait dû changer. Qu'est-ce qu'on y voyait aussi? Il y avait des combats de robots. Enfin, des combats de robots. Il y avait des petites voitures télécommandées, des robots fabriqués, et c'était une espèce de petit match de foot, donc il y avait deux joueurs, deux enfants en général, et le but c'était d'amener une balle avec son petit robot en Lego dans le but adverse. Il y avait des voitures télécommandées, et ce qui est génial, c'est qu'une voiture télécommandée en Lego, la voiture est faite en Lego, mais la manette de commande est aussi en Lego. Tout est en Lego, c'est impressionnant. Je crois que le truc le plus impressionnant, c'était... alors, comment ça s'appelle?
Ce que tu as mis en vidéo sur notre Facebook de l'émission.
Ça s'appelle le Big Bang Bidule, qui était construit par un des membres de l'association
Tapez heureusement en France sur Internet, sur le Facebook. Vous avez cette vidéo faite en direct.
Ce qu'on appelle un montage à la rue de Goldberg, c'est-à-dire ces gens qui s'amusent à faire un petit peu comme les dominos dés. Enfin, vous voyez, il y a une pièce qui fait un parcours, qui va bouger une autre pièce, qui tire un élastique, qui fait tourner une machine, qui fait avancer un mécanisme, etc. Ça peut durer des heures. Et là, il y a un fou qui avait construit sur une table en carré. Il balançait des petites billes dans le mécanisme à l'entrée. Tout était construit en Lego. Et les billes étaient emmenées à travers le mécanisme, à travers des ascenseurs, à travers des projecteurs, dans des décors différents. C'est très difficile à décrire à la radio. Et en fait, tout le monde était émerveillé. Tout le monde filmait, comme moi d'ailleurs. Tu ne peux pas t'empêcher de filmer, de prendre des photos et de suivre toute la progression des billes tout au long de la... Enfin, il faut y être pour le voir.
Mais avoir gardé la structure en détail et de près, il s'est vraiment compliqué la tâche. Puisqu'il n'a pas fait juste hop, je pousse et ça descend. Non, il y en a qui vont attraper. Alors, va attraper une bille avec des Legos. Hein, accroche-toi. Ensuite,
Moteurs. De temps en temps, il y avait un petit coup. Qu'il y a un moteur qui tombe en panne, etc. Et tu le voyais réparer en temps réel son animation Lego. Et ce qui est bien, c'est que chacun des endroits, chacun des petits manèges, enfin des endroits, était un univers différent. Ça pouvait être le Seigneur des Anneaux, puis tu passais à les Avengers, je dis n'importe quoi, puis à un monde sous-marin, etc. Avec un Game of Thrones, etc. Enfin, plein d'univers différents. Et les petites billes arrivaient jusqu'à la fin. Et c'était impressionnant. Tout le monde. Alors, le truc, c'est marrant parce que le mot qu'on entendait plus dans cette exposition quand t'écoutais les parents ou les enfants, c'est hey, regarde. Ouais. Oui, il y a les parents qui disaient touche pas. Et t'as les gamins qui disaient regarde. Et puis qui passaient d'une table à l'autre parce qu'il se passait des trucs de fou sur toutes les tables. Il y avait des reconstitutions des batailles de Star Wars. Enfin, c'est un boulot incroyable.
Mais c'était bien fait parce que ton enfant, tu lui dis touche pas pendant tout le salon. Et à la fin, il y a un mont de briques bleues. Et là, tu fais vas-y.
Éclate la joie.
Et t'en as pour une heure.
Il y avait il court, il saute dedans.
Exactement. Il y avait un autre endroit où on pouvait toucher aussi. Ils avaient fait un truc très original. Ils avaient imaginé une fresque, un dessin, une mosaïque. Et quand j'y suis allé, moi, hier, au début du salon, la mosaïque n'était pas commencée. Donc, il y avait une grande planche en bois avec juste un début de frise. Et ils avaient, grâce à un logiciel, reconstitué tous les petits détails de l'image sous forme de carré, enfin de losange, et il donnait à chaque visiteur qui s'asseyait à la table des Lego et une feuille A4 avec un motif à refaire avec les Lego. Et tu faisais ton motif, il le donnait, il vérifiait que tu t'étais pas trompé, et ton motif allait dans la mosaïque, et petit à petit, donc, j'imagine qu'à la fin du salon, le dessin est complètement reconstitué, et ça c'est génial. Je me suis bâti avec des gamins presque pour prendre ma place, pour le faire moi-même.
À une nuit du jeu qui a eu lieu il y a 3 ans, 5 ans maintenant peut-être, où quand tu rentrais pour la nuit du jeu, tu avais... il te passait un petit tampon pour dire voilà, tu peux rentrer et sortir, et en même temps il te proposait d'être devant la table de Lego et te disait voilà, avant de rentrer tu peux prendre une pièce de Lego et la mettre sur la table. Et en fait, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rentrées dans la nuit du jeu ont fait une œuvre commune en Lego. Donc il y avait des trolls forcément qui mettaient des pièces en veux-tu en voilà, mais je pense qu'il y a dû avoir ça aussi là-bas.
Et le truc le plus impressionnant peut-être qui est à l'entrée, c'était le fameux simulateur de vol. J'ai enregistré un petit son, François va le passer, puisque j'ai interviewé le créateur de ce simulateur de vol.
Bonjour, je suis Nicolas Carrel. Je suis un adulte fan of Lego, un AFOL comme on dit dans le milieu des avertis. J'ai construit un simulateur de vol d'Airbus A320 en Lego que je présente à Wavrin ce week-end. Je suis très heureux de pouvoir venir de Lyon exprès pour ça. Et c'est une idée qui m'est venue en 2014, lorsque j'étais déjà adulte fan of Lego à l'époque, et qu'on cherchait des idées pour que les enfants puissent toucher aux briques. Donc des idées un peu farfelues sont venues dans les têtes. Je voulais au départ construire un avion sur rotule, avec un petit manche à balai pour le manœuvrer. Puis j'avais déjà d'autres idées en carton que j'avais fait avant, j'avais fait pas mal de trains, des petits modèles City. Ça c'était sympa, et puis on cherchait des idées en fait pour un peu épater les galeries. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'aviation à peu près au même moment, à partir de 2012, sachant qu'avant je n'y connaissais rien. Et j'ai germé cette idée de construire ce simulateur de vol en Lego, parce que j'avais les éléments théoriques, j'avais les outils logiciels pour le faire, j'avais le savoir-faire de la construction en Lego. Et on a lancé ce pari pour l'exposition de Brick Expo à Lyon, pour une expo en septembre 2015. Donc j'ai lancé le pari un an avant, en disant aux organisateurs, allez-y, on y va, vous me réservez l'emplacement et dans un an, j'arrive avec le truc. Paris est réussi, alors c'était un peu plus sommaire que ce qui a été présenté aujourd'hui, mais néanmoins, ça a permis à pas mal de jeunes de découvrir le pilotage de l'avion de ligne. Et après, comme je fais tout à l'envers, j'ai passé mon diplôme d'enseignant initiation aéronautique en 2016, et là, depuis seulement le mois de juin, j'apprends enfin à piloter. Alors pour pouvoir utiliser ce simulateur et commencer à faire des scénarios pédagogiques, j'ai cherché de l'aide. Donc j'ai lancé des bouées en juin 2015, quelques mois avant l'exposition, afin de trouver des gens qui soient capables de m'aider à le piloter et de m'aider à construire le scénario pédagogique. Et je suis tombé sur des bonnes volontés qui m'ont aidé effectivement, qui sont devenus des amis ensuite, qui sont là aujourd'hui, qui eux aussi ont passé comme moi le diplôme d'enseignant à l'initiation aéronautique, ou d'autres choses, qui projettent de devenir pilote de ligne. Et c'est un milieu passionnant parce que j'ai reçu un excellent accueil et on a dans ce milieu-là des profils extrêmement variés. Donc voilà comment je suis passé de la brique Lego à l'aviation.
Oui, avec un simulateur. Hein. C'est vrai que lorsque tu es lancé dans cette aventure de simulateur de vol, j'en connais qui peuvent aller très loin. Et c'est toujours sympathique, surtout en Lego.
C'est ça, ce qui est fou, c'est qu'ils ne connaissaient rien à l'aéronautique en 2012 encore, quoi. Et c'est amusant de voir les gamins qui passaient, qui s'inscrivaient, puis ils faisaient 20 minutes d'initiation, tout ce qui est le langage, etc. Ensuite, ils attendaient leur tour et ils avaient le droit de piloter l'avion, de faire décoller, de faire un vol, un demi-tour, et de réatterrir sous les applaudissements en général des spectateurs. Et c'était impressionnant. Et ils repartaient avec leur photo, avec le costume, la veste de pilote à côté du pilote et leur diplôme de vol.
Waouh, diplôme de VOM Lego.
Donc c'est impressionnant. Et il m'a expliqué qu'ils étaient arrivés assez tôt. Donc ils venaient de Lyon avec leur matériel. Et ça leur prend du temps. Ils ne font pas beaucoup de sorties parce qu'il faut à peu près 6 heures pour le montage et 6 heures pour le démontage. Ce qui est un petit peu le cas pour toutes les tables de Lego. Parce qu'on a l'impression qu'on arrive, tout est déjà en place. Mais non, les gens, il y en a qui voyageaient toute la nuit. Ils arrivaient tôt le matin. Ils commencent à monter, des fois des heures. Ils sont arrivés la veille au salon pour installer toutes leurs tables de Lego. Et quand tu vois le résultat, c'est impressionnant. Malheureusement, ce genre de... Enfin, si, il y a plusieurs réunions comme ça tout au long de l'année, un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. Mais eux, la prochaine exposition... La dernière, c'était il y a 3 ans, et la prochaine, c'est il y a 3 ans, parce que ça prend énormément de temps à organiser.
Alors, est-ce que parmi vous, il y a des objets Lego qui vous ont marqué? Si je vous dis Lego, vous pensez à ça, vous dites « Ah ouais, ça c'est un objet que j'aurais bien aimé avoir ».
Tout le monde, même ceux dans le salon, tu parlais, c'est le bateau pirate souvent.
Ah.
Le bateau pirate quand il était sorti, il y en a beaucoup qui ont commencé au Lego, même des adultes qui sont revenus au Lego en voyant le bateau pirate.
Non, moi je serais plus Lego technique dans le sens où justement tu avais les Lego quand tu étais jeune, tu pouvais construire des maisons, des n'importe quoi. Généralement tu avais le côté statique et quand tu avais les Lego techniques, tu pouvais commencer à faire des machines de chantier, des voitures. Et là, tu avais le côté où tes Lego bougeaient et tu pouvais vraiment donner vie à tes rêves et vraiment jouer avec tes Lego.
Moi, ce serait plus les engins spatiaux. Alors, si on fait un ISS en Lego,
au salon, j'achète. Il y a une reconstitution.
Parce qu'il y a déjà les navettes de la NASA, il y a le Soyouz.
Tu peux tout faire.
Je ne sais pas s'il y a l'ISS.
Oui, il y a tout. Il y a
le vaisseau de Star Wars.
Forcément, il y a tout.
Le Falcon Millennium.
Et surtout que maintenant, les Lego, tu les achètes par boîte. On dirait des meubles Ikea quand ils arrivent chez toi, tellement qu'ils sont imposants. Tu as les notices qui font plus de 300 pages.
D'ailleurs, c'est affolant. Olivier, avec qui j'ai discuté, l'un des organisateurs, m'expliquait qu'à Noël, forcément, on lui offre des boîtes de Lego et un jour, on lui a offert trois fois la même boîte. Et les gens disaient, oh, on est désolé, on l'a pas fait exprès. Lui
non,
était fou.
C'est
au contraire,
grave.
C'est génial, au contraire.
Je peux en faire un trois fois plus gros.
Oui, déjà, ou autre chose. Et c'est absolument génial. Donc, toutes les informations, les liens vers l'organisation et les futurs salons et l'organisation Freelug qui organisait ce salon seront bien sûr sur notre site.
Et c'est encore d'actualité parce que tu as pas mal de vidéos sur YouTube où tu as des streamers ou des YouTubers qui montent. Qui profitent de parler à leur communauté à ce moment-là, mais qui font des lives pour monter des Lego.
Il y a quelque chose me dit que ces gens-là, on risque de les avoir un jour en studio.
Allez,
pas de soucis.
On leur fera un siège en Lego rien que pour eux. Exactement. Je vous propose d'écouter cette interview de Mike pour le salon Ludigeek. Une exclusivité dans... Si je me trompe d'interview, ça ne va pas.
On accueille donc, comme prévu avec nous, Mike pour le festival Ludigeek.
C'est un petit peu notre parrain puisqu'on l'avait reçu dans la première émission qu'on avait fait officiellement sur Radio Campus. Donc, bonjour Mike, bienvenue, merci de nous rejoindre.
Bonsoir messieurs, ravi d'être avec vous encore une fois.
Et c'est vrai qu'il y a ce festival Ludigeek qui est devenu un peu un rendez-vous annuel pour nous. Et ça va se passer très bientôt, puisque c'est du samedi 16 au samedi 17.
Non, samedi 16 et dimanche 17.
Voilà, oui. Attention. Il n'y a pas de samedi dans
le
week-end.
Pas encore.
Peut-être entre la semaine des 4 jeudis.
Et c'est vrai que c'est un festival qui nous plaît bien, parce que Ludigeek, ça recouvre à peu près une partie et plus des thèmes que nous, on aime bien aborder dans nos émissions. Il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que toutes les activités des geeks. Il y a de tout dans ce festival et on va prendre le temps de détailler le programme de cette année, encore une fois.
Alors Mike, tu ne vas pas échapper à la question de Heureusement en France. Comment est-ce que tu en es arrivé à toi dans ce parcours geek, quelles sont tes premières expériences de joueur éventuellement ou d'artiste, tu choisis?
Qu'est-ce qui t'a passé par la tête de monter ton festival comme ça?
Remonte à l'âge de pierre où on jouait dans Exactement. Les cavernes à la lueur du feu de bois. Moi, comment j'en suis arrivé là? C'est tout simple. J'ai commencé chez moi il y a des années on m'a offert un premier bouquin qui était une révélation qui s'appelait Un livre dont vous êtes le héros. Et c'est là que j'ai découvert tout un univers, quelque chose de formidable, qui était le jeu un petit peu personnel, puisque c'était des aventures en solo. Et de là, j'ai rencontré des copains au collège qui me disent « nous aussi on joue ». Je dis « ça serait super qu'on puisse jouer, mais tous ensemble autour d'une table ». Et puis on a commencé, on a découvert le jeu de rôle, JRTM, Rollmasters, Warhammer. On a intégré vite fait une association qui était dans la ville où on était tous réunis, et c'est là que l'aventure a commencé. J'avais 11 ans, aujourd'hui j'en ai 45 et j'ai jamais arrêté de jouer. J'ai écumé les tables de jeux de rôle, les jeux de plateau, les jeux de cartes. J'ai assisté à la naissance de Magic, où j'ai été longtemps un joueur.
On est désolé.
Non, mais plein d'aventures, plein de découvertes, des choses super sympas, des déceptions aussi, puisque y a des choses que j'ai moins aimées que d'autres. Lors d'aujourd'hui, je joue moins au jeu de rôle parce que le jeu de rôle est devenu quelque chose d'assez plus compliqué à mettre en place qu'une partie de jeu de plateau. Mais j'essaie quand même de caser de temps en temps une partie de jeu de rôle parce que ça me manque et que j'ai ça dans le sang. Et voilà, c'est un petit peu mon parcours au travers de tout ça. Et comme arrivé à la quarantaine, je me suis dit, j'ai encore envie de jouer, j'ai envie de réunir des gens autour de ça. On a créé l'association Ludigeek il y a 3 ans maintenant. On a réussi à réunir quelques gens autour de nous. On a dit, pourquoi pas créer nous aussi notre propre petit festival en toute humilité sur la ville d'Aluin qui a accepté de nous accueillir et de créer cette première édition sur laquelle on s'est nous.
Alors, la première édition, elle date de quand?
Il y a 2 ans, en fait, il y a 3 ans maintenant, enfin cette année, ça fait 3 ans qu'on a créé la première édition, en fait, voilà, 2016, voilà.
Et quelles sont pour l'instant les évolutions? Parce que je pense qu'un festival, surtout dans cette période où j'ai l'impression que le geek devient de plus en plus attractif.
Oui, il y a un côté très... très financier, enfin, il y a un côté merchandising autour de la culture du geek. C'est une culture qui a été longtemps décriée parce que on pointait du doigt les gens, les geeks, en disant « Ah, vous êtes des geeks », comme si on était atteint d'une maladie. La seule maladie qu'on avait, c'était celle d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de jouer. À l'heure d'aujourd'hui, la culture geek, faut pas cracher dans la soupe, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent dans tous les domaines, qu'elle soit dans le jeu vidéo, qu'elle soit dans le cinéma, qu'elle soit dans le jeu en général. Nous, au niveau de notre motivation, on a toujours essayé d'être un petit peu à l'écart de ce côté merchandising, de pas rentrer dans le jeu de ces gros événements qui existent aujourd'hui en France, comme les Geek Days, comme les Games Tokyo, enfin des choses comme ça, enfin qui sont des gros events où en fait on arrive à payer une entrée d'un festival pour rentrer dans un supermarché où en fait on
a plus de youtubeurs que de jeux de société.
Seulement, mais c'est vrai que tu veux avoir, même, je le vois, le plus symbolique, c'est les dédicaces quand il y a des festivals qui abordent, qui accueillent des stars de séries, de cinéma, etc. Tu payes une fortune rien que pour prendre ta photo et ça ne donne plus envie de sortir. Quoi.
L'année passée, on a eu l'occasion de participer, par exemple, je vais les citer, au Geek Days de Lille. Et nous, on était là, on faisait des démonstrations de jeux. Et à côté de nous, il y avait des stands qui accueillaient des youtubeurs. Et à un moment donné, je me retourne et je vois une file d'attente. Il y avait 200, 250 personnes qui faisaient la queue pour dédicacer une jeune fille qui était derrière une table et qui enchaînait les dédicaces avec des sourires, des selfies et tout ça. Et je me dis, mais qui est cette jeune fille? Je ne la connais pas, enfin, je ne sais pas qui elle est, et faire déplacer autant de monde. Et là, on m'explique en fait que c'est une jeune fille qui fait des vidéos de... Alors, j'ai aucune discrimination là-dessus. Hein. Des vidéos de tutos de maquillage sur le net.
Ah, bah oui. Ce qui est très geek, d'ailleurs.
Très geek, mais elle était là. Et je me dis, ah, ok, c'est super. À côté, il y avait un gars qui était là, qui lui faisait des vidéos d'open the box de jeux vidéo. Il ouvre des boîtes de jeux vidéo, il regarde le contenu, il lance une démo et je me dis, ah, on a pris un coup de vieux, quoi, en fait. Enfin, c'est plus notre génération, mais ça génère du monde, ça génère plein de gens. Et YouTube est, je pense, partisan de faire proliférer ce genre de choses, quoi.
Alors voilà, là, on entre dans un débat qui risque d'être long et assez différent, mais qui est... C'est vrai que beaucoup de YouTubeurs ne font plus des vidéos qu'ils ont envie de faire, mais non, font des vidéos que les gens ont envie de voir. Exactement. Et donc, ils rentrent dans un filon et... Voilà, ils font peut-être même sans passion, mais derrière, l'argent rentre. Ils sont célèbres et pour eux, ça leur va très bien. Hein.
Et c'est pour ça que Ludigeek est un festival que, pour lequel j'ai tout de suite craqué. On sentait bien que c'est pas le but du jeu. C'est pas le but d'avoir une salle de plus en plus grande et de plus en plus de spectateurs. Et bah, vas-y, tu peux nous en dire un bon.
Ouais, on est, nous, dans cette thématique de... Je dirais de, enfin, je vais mettre ça de démonstration. C'est-à-dire que cette culture geek au sens large, et quand je dis culture, c'est quelque chose que je mets vraiment en valeur. Pour moi, c'est de la culture qui est aussi bien comme de l'art, et qui mérite cette reconnaissance. Nous, on a voulu dire aux gens, voilà ce que nous on aime, voilà ce qui nous passionne, voilà les univers dans lesquels on aime voyager et vers lesquels on aimerait vous faire voyager, le fantastique, le medfan, la science-fiction, le steampunk, enfin tout ça, et de vous présenter un panel assez varié de tout ça dans un petit festival où vous pourrez rencontrer des auteurs, des dessinateurs, des peintres figurinistes, des écrivains, des créateurs de jeux, de plateaux, de rôles, de board games différents. Et tout ça dans une ambiance très familiale où il n'y a pas d'aspect financier, il n'y a pas d'entrée à payer, il n'y a pas la course au merchandising derrière. Les gens viennent, passent un agréable moment et peuvent côtoyer des gens sympathiques qui sont juste là pour leur expliquer qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les a motivés à partir et à travailler dans ce secteur. Voilà, tout simplement. Mais en toute humilité, en toute simplicité.
Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le pur festival familial par excellence, parce qu'il y en a pour tous les âges. C'est-à-dire que les parents vont accompagner leurs enfants qui disent « j'ai envie d'aller voir ce truc-là », et les parents vont craquer aussi pour ce qu'ils vont rencontrer, peut-être même les grands-parents qui sont là, etc. C'est vrai, ça dure 2 jours, et je pense que le deuxième jour, il doit y avoir des gens qui viennent, qui reviennent et qui apportent des amis et qui ont suivi leurs enfants le premier jour et qui reviennent le lendemain.
On a des gens qui viennent faire les deux jours. On a des, comme tu le dis, on a des parents qui viennent pour découvrir des choses qui les ramènent un peu à leur enfance et qui du coup font découvrir ça à leurs enfants et qui viennent passer une journée complète à jouer, à s'asseoir à des tables, à assister aux animations qu'on propose, enfin tout un tas de choses qui enrichit notre programmation d'année en année, puisque c'est ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que d'année en année, on essaie d'évoluer, de proposer des choses toujours un peu mieux, un peu plus évoluées aussi. Et pour l'instant, on croise les doigts, c'est une opération qui marche. On a vu ça grâce à la courbe de nos visiteurs qui, sur une première édition où on a accueilli 1200 personnes, où on était déjà très satisfait parce que je ne m'attendais pas à ça, l'année dernière, on a accueilli plus de 2800 visiteurs.
Et oui, ça grossit. Ouais. Alors, je tiens à préciser qu'on n'a pas filé à Mike le micro pourri de Radio Campus, c'est qu'il est avec nous par Skype, enfin un logiciel de communication qui est éventuellement gratuit ou open source ou pas. J'essaie de pas fâcher l'émission juste après. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pendant ce week-end? Est-ce qu'on peut avoir un petit détail, un planning de ces deux jours
quand
d'événement.
On va entrer, donc on rappelle que c'est le samedi 16 et le dimanche 17 de 10h à 18h, si je ne dis pas de bêtises, les deux jours.
À Luin, à la
salle du manège, à 19h, jusqu'à 19h, la salle du manège. Et bien, on t'écoute, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver cette année?
Alors, cette année, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Déjà, il y a la thématique. Chaque année, on essaie d'imposer un petit peu une petite thématique. Donc, cette année, on est parti sur la thématique d'Harry Potter et les animaux fantastiques. Alors, autour du festival, on trouvera toujours le côté jeu où les gens pourront venir tester, essayer des jeux qui nous sont fournis par la plupart de nos partenaires. Donc il y en a beaucoup, il y a Funforge, il y a Mythic Games, il y a Holy Grail, il y a Lucky Duck Games, il y a Monolith, il y a Bombix, enfin, ils sont vraiment beaucoup beaucoup à nous supporter et à nous apporter vraiment un gros coup de main et je les en remercie chaque année. Derrière ça, on va accueillir des éditeurs qui seront vraiment eux sur place, donc Gigamic, les TGCM, Mythic Games qui seront présents. Ça c'est vraiment pour la partie jeu. On a un partenaire boutique qui est Till Games qui sera là, lui, en tant que magasin, qui vous permettra de tester sur son stand des jeux et, s'il vous plaît, de pouvoir les acheter derrière.
C'est ça qui est bien parce qu'on rappelle que comme c'est mi-novembre, on est un petit peu un mois avant Noël. Donc, voilà. Ça permet de craquer, quand on a craqué pour un jeu ou autre chose, de repartir avec en plus.
Voilà, on peut se faire un petit plaisir avant Noël d'acheter des choses sympathiques. Derrière ça, on aura des stands avec des artisans. Qui viendront nous proposer des choses qui font très très bien. Il y a Mademoiselle Koshka qui va venir nous présenter son univers, ses bijoux, tout ce qu'elle crée autour de la culture d'Harry Potter. Allons à un stand qui sera entièrement dédié à Harry Potter et aux animaux fantastiques. Cette année, en nouveauté, on accueillera aussi Trésor de Sirène, qui est une personne qui nous a proposé de venir chez nous et qui crée des petits univers dans des aquariums. Avec de la résine qui donne un aspect d'eau, tout ça, avec plein de petites créatures féeriques. On accueillera aussi notamment MyScenery, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'impression de décors en 3D, quelque chose qui est très à la mode et qui jouit d'une grande publicité à l'heure d'aujourd'hui.
Pour tout ce qui est Wargames, etc.
Oui, pour tout ce qui est wargame, jeux de plateau, jeux de société, mais aussi beaucoup de... Ils font aussi dans tout ce qui est rangement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeux de plateau, jeux de société, ça prend beaucoup de place. Ils proposent aussi des services d'optimisation de boîtes de rangement, notamment.
Ça, c'est pratique. Quand tu as un jeu auquel tu joues souvent, tu as juste à ouvrir la boîte, tu sors le présentoir, et tout voilà. Est presque prêt.
On pense notamment à Keyforge et à Dominion, de célèbres jeux.
Moi, j'ai le problème avec Quarriors.
Les dés où tu as des solutions et c'est parfait. Tu n'as pas envie de sortir le jeu parce qu'il est trop long à sortir ou à ranger, c'est parfait.
J'ai juste pas envie de le ranger, en fait, derrière, c'est ça.
Surtout, oui.
On aura notamment Théan Folie, qui est un partenaire que je voulais avoir depuis 2 ans et là j'ai réussi à l'avoir cette année, qui est un spécialiste du dé. En fait, vous trouvez des dés de toutes tailles, de toutes les couleurs, de toutes sortes chez lui, et qui est un gars vraiment très gentil. Ça, c'est un petit peu le côté merchant.
Je l'ai vu sur un salon récemment, effectivement, il fait des créations magnifiques. On peut se demander presque customiser ses dés si on demande gentiment.
Bon, tout à fait. Après, au niveau, je dirais un peu moins axé sur le jeu, et pour repartir un peu sur la culture geek, on accueille Japan Geek, qui est notre partenaire qui, lui, va nous montrer un petit peu un aspect de la culture manga sur le festival. On a Astro City, qui est notre un partenaire des premiers temps du ludique. Historique, tout à fait, qui est pour moi, à mon sens, l'un des meilleurs comics shop que je connaisse, avec des Fred et Damien qui sont deux experts et vraiment très sympathiques et très accueillants, qui seront présents. On a la librairie des Quatre Chemins, et là aussi c'est pareil, je me suis dit qu'on pourrait avoir des gens comme Le Furet, comme la FNAC, ou des choses comme ça, mais la librairie des Quatre Chemins est à mon sens l'une des dernières vraies librairies qui existent et qui est axée sur le polar, les romans en science-fiction, médiéval fantastique qui est sur l'île.
Ils ne se contentent pas de juste vendre des bouquins ou de les conseiller, qui font aussi des rencontres dans leur magasin, etc. C'est vraiment un endroit sympa.
Des cafés, ouais, c'est vraiment très très bien. Et cette année, on pourra accueillir notamment un auteur qui est Rodolphe Van Orde, qui viendra nous présenter son roman qui s'appelle L'héritière du chaos. Et il sera là, il sera présent durant le week-end en dédicace parmi nous. Ensuite, on accueillera toujours la 501e Légion et l'association Solaris Ténébris, qui sont des partenaires historiques. Et chaque année, même s'ils ne sont pas dans la thématique, chaque année, on leur accorde un espace sur le festival, parce que je trouve qu'ils sont très représentatifs de cette culture, même si c'est pas la thématique, il reste quand même une part intéressante à faire découvrir au niveau du public.
Ils sont assez spectaculaires, c'est vrai.
Et ils nous proposeront notamment le samedi après-midi une démonstration de sabre laser sur scène avec l'association Solaris Ténébris, ainsi que la société Epic Anime qui revient. Alors cette année, Epic Anime revient, mais ne nous présentera pas leur spectacle habituel. Ils ont un nouveau concept qui sera plus axé sur la sorcellerie, des magiciens, et justement initier des enfants à un combat de sorciers avec une petite quête mystique à accomplir. Donc ça, c'est vraiment pour le côté pure animation pour les enfants le samedi après-midi. Le dimanche, on a sur scène, on aura autre chose. On a vraiment voulu leur laisser un peu de place aussi, plus que l'année passée. C'est-à-dire... les gens qui font partie de cette culture du cosplay, qui est liée aussi à la culture geek, notamment avec l'association Lille Otaku, ils nous proposeront le dimanche après-midi un vrai défilé concours cosplay. C'est-à-dire que des gens vont venir et vont nous montrer un peu ce qu'ils font. Alors, surtout, moi, au début, je faisais l'erreur, je disais qu'ils avaient des super beaux déguisements.
Mais non, non, dire non.
Oh là là, le troll pas...
On dit vraiment des costumes et ce sont des gens que je respecte pour la patience et le talent qu'ils ont à créer des costumes qui leur prend sans doute des mois et des mois. Donc cette année, on leur laisse une place plus importante le dimanche après-midi pour qu'ils puissent nous proposer un super défilé avec un concours de cosplay.
Alors déjà, voilà. Déjà l'année dernière, il y avait eu un gros concours de cosplay, hein.
L'année passée, ils n'étaient pas en concours, ils étaient en mode défilé, puisqu'il n'y avait pas eu cette notion de récompense ou de choses comme ça.
Mais on aurait bien pu, puisqu'il y avait plus d'une quinzaine de groupes de cosplay quasiment qui avaient défilé.
Donc là, on va vraiment leur proposer, enfin, on leur a vraiment proposé de dire, bon, voilà, vous voulez un défilé ou vous voulez un concours? Ils nous disent, un concours, c'est vrai que c'est plus intéressant, ça ramène plus de monde, puisque les gens sont vraiment plus motivés. Donc, on a dit, ok, on vous laisse la scène pour vous, vous avez la scène toute l'après-midi, et proposez-nous ce que vous savez bien faire. Donc, ils seront là. Et voilà, ça, en gros, c'est un peu tout ce qui va se passer. Et je rajouterai aussi, cette année, on a concrétisé un partenariat avec la ville d'Aluin. Et notamment le centre culturel de la ville avec qui j'ai travaillé sur le projet. Ils nous proposeront le samedi après-midi à 17h et à 19h deux projections d'un film fan qui a été fait, qui retrace un peu la jeunesse de Voldemort. Donc c'est un film fan-made mais qui est très bien fait, qui jouit d'une qualité de film et de réalisation qui est vraiment limite. Enfin, pour moi, proche d'un film pro. Et donc, il y aura une projection gratuite qui sera au centre culturel Albert Desmet, qui est rue de Lille. Donc, c'est juste en face de la salle du manège. C'est à moins de 100 mètres. Et c'est sur une projection donc à 17h et à 19h. Et j'invite vraiment tous les gens qui viennent au festival à peut-être faire une pause de notre festival et aller voir cette projection et puis à revenir après avec nous. Voilà.
Comment on fait tenir tout ça dans une si petite salle, c'est incroyable.
Alors on est vraiment borderline. Cette année, je pense qu'on ne pourra pas accueillir plus de stands et plus de choses parce qu'on a vraiment serré au maximum.
Ouf, pas mal. Et comme chaque année aussi, on pourra. Je pense toujours. Non, je ne pense pas qu'à ça. On pourra aussi manger et boire sur place. C'est ça. Y passer la journée entière.
Restauration et boissons.
Voilà, l'instant reste. Il est important parce que cette année, bon, comme toujours, il y aura de quoi grignoter. On a notre compagnon Luigino qui nous proposera ses super pizzas et street hot dog qui revient chez nous. Et cette année, le bar sera tenu par le Ludibreak Café. Ooh. Donc Laurent qui est un ami, m'a proposé gentiment de tenir le bar lors du festival. Donc je dis bah oui, pourquoi pas, ça peut être super sympa. Et donc le Ludibreak Café sera présent chez nous aussi cette année, mais au niveau du bar. Donc ils seront ravis de vous servir tous les rafraîchissements possibles et inimaginables durant le festival.
Challenge accepted.
Peut-être des rafraîchissements à la Harry Potter, etc. Je ne sais pas.
Alors, la bière au beurre pour avoir goûté.
Non, c'est pas bière. Ça. Bon, d'accord. Non.
Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre Harry Potter et les animaux fantastiques?
Oui.
Bah, c'est là.
Ah. Exactement. Oui.
Alors,
excusez-moi d'être un culte dans le domaine.
Oui, il y a un rapport, je pense, au niveau des personnages, puisque dans les animaux fantastiques, tu vas retrouver certains des personnages beaucoup plus jeunes que tu retrouves dans Harry Potter. Et on parle et on fait des références à certains ennemis, à certains autres personnages aussi, dans l'un des films comme dans l'autre, en fait. Mais ça ne se passe pas à la même époque, voilà. Mais sinon, c'est le même univers. Il y a des codes. Enfin, les gros fans d'Harry Potter qui le sont sans doute beaucoup plus que moi, parce que je suis pas un gros fan d'Harry Potter. Les gros fans vont te dire oui, il y a des cohérences entre les deux films sans souci, quoi.
Et il y aura pas de Quidditch, c'est ça?
Alors,
il fait trop froid.
Voilà, j'aurais bien aimé, puisqu'il y a une association qui s'appelle les Black Snitches, qui sont sur l'île, qui est une association de Quidditch. Mais le problème, c'est que, comme tu le dis, voilà, on est en novembre, ça caille quand même pas mal. Je me dis que les faire jouer dehors au Quidditch, c'était pas super sympa. Et pour des raisons de sécurité, je ne pouvais pas les accueillir sur scène, en fait. C'est trop risqué, il y a une scène qui est quand même assez haute, donc on voudrait pas les mettre en danger et risquer qu'ils se blessent. Mais donc non, il y aura pas de Quidditch, mais il y aura plein de petits jeux qu'on va mettre en place à l'entrée. Dès l'entrée, les gens pourront tester plein de choses autour d'Harry Potter, avec des jeux qui sont hyper intéressants, dont un super quiz. On a mis en place une petite application et les gens pourront essayer de se frotter à un quiz vraiment réservé aux gens qui sont fans d'Harry Potter, parce que moi j'ai essayé, les questions sont quand même pas piquées des verres, avec des superbes lots à la clé, puisque comme chaque année on met en place des lots qu'on offre aux gens, et on espère que les gens seront hyper contents de jouer avec nous.
Ce qui est super sympa. Mais alors, j'ai une idée, est-ce qu'on ferait pas un Quidditch mais avec des drones?
Oh mon dieu, non, tu veux mélanger Star Wars et Harry Potter? Non, on va voir l'année prochaine.
Alors si vous formez un groupe de travail et que vous bossez là-dessus, ça pourrait être une super idée quand même.
Non, à développer, c'est surtout en VR, faire du Quidditch en VR.
Ça allait trop loin.
Mais comment tu voles?
Ben avec tes manettes. Hein.
Sur non, chaînes. Je pense qu'avec les drones, il y a peut-être moyen, écoute. Hein.
Il y a peut-être un truc, je pense.
Ouais, où tu mélanges les drones avec la VR.
Ou qui portent des animaux fantastiques.
Justement, Harry Potter, c'est est-ce qu'on pourra, dès en entrant dans la salle, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va se retrouver, je veux dire, visuellement dans l'univers d'Harry Potter, au niveau de la décoration, etc.
Puisqu'il y a des éditions où on avait, par exemple, le trône de Game of Thrones, exactement, qui était dès à l'entrée.
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a je vais devoir vous spoiler, en fait.
Ah oui, c'est ça. Ça. Vite un scoop.
Alors, une énigme.
En gros, quand vous allez rentrer dans la salle, comme chaque année, on essaie de faire en sorte que les gens, quand ils arrivent dans la salle, ils se mettent un petit peu dans l'ambiance du festival par un peu de décor qu'on essaie de faire. Cette année, on a mis un peu de budget, on s'est dit, bon, on va essayer de faire les choses bien, puisque, bon, je le rappelle quand même, on est une association qui ne peut pas générer de bénéfices, donc en fait, quand on reçoit de l'argent, ben, on est plus ou moins obligé de le dépenser dans l'intérêt du festival. Et là, en fait, on a mis un petit peu l'accent sur de la déco. En gros, je ne peux pas vous dire et vous révéler la surprise, mais les gens qui connaissent Harry Potter, qui aiment bien Harry Potter, quand ils vont rentrer, et dès les premiers mètres, je pense que la bouche va s'entrouvrir et qu'on va peut-être avoir le droit à « waouh ». Ils ont quand même fait ça. Voilà.
Donc, il y aura Daniel Radcliffe sur le qui signe des autographes.
Là, on en reparle dans 15 ans.
Une fois qu'il...
On n'est pas dans cette thématique encore de pouvoir accueillir des acteurs de séries, de films, choses comme ça, parce que ça reste des choses qui sont vraiment très très cher pour un intérêt qui est pas forcément toujours probant par rapport à un festival de petite taille comme le nôtre. À l'heure d'aujourd'hui, un acteur de seconde zone qui a joué dans Harry Potter, je pense à un des acteurs qui s'appelait Victor, qui jouait l'un des mages, je l'ai rencontré récemment sur un festival. C'est quelqu'un, pour l'avoir sur ton festival, ça te coûte 8000 euros rien que pour l'avoir. Après, tu dois prendre en charge son hôtel, son billet d'avion, choses comme ça.
Et donc, après, il fait payer les dédicaces.
Et après, il fait payer les dédicaces, bien évidemment. Donc, si je fais ça, en gros, on fait un ludique tous les 5 ans.
Et entrée payante, et puis on s'appelle Geek Days, en fait.
Non, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc, moi, on préfère un petit peu créer un petit univers, de mettre de la déco. On a investi, on a fait des trucs sympas. C'est pas du professionnel, ça reste de la décoration associative. Mais je pense que ça fera son petit effet pour les gens qui ont envie de se laisser glisser tout doucement dans l'univers d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Voilà.
Oui, je te laisse continuer.
Comme on a pu le faire avec sur la première édition, notre trône de fer, qui était un trône de bois, mais qui a fait sa petite illusion, qui a marché et qui a fait plaisir à pas mal de personnes.
Donc voilà, un fan d'Harry Potter et fan de l'univers geek, bien sûr, c'est le rendez-vous, c'est samedi 16, dimanche 17 novembre à Allouin.
De 10h à 19h.
Voilà, important. Et je pense qu'il faut bien sûr aller sur le site de l'événement. Alors, festival
on va
du
mettre toutes les coordonnées du
geek.
Salon et des partenaires sur notre site et notre Facebook. Donc, le Facebook, c'est simple, c'est Ludigeek, L-U-D-I-G-E-E-K, tout simplement. On va faire pour parler d'Harry Potter, on va peut-être passer une musique d'Harry Potter. Et puis ensuite, on va revenir et puis on va parler avec Mike du reste de ses activités. Parce qu'en plus du salon, il arrive à faire plein d'autres choses.
Un petit peu.
parle bien sûr du festival Ludigeek, mais il y a aussi une association. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette association au cours de l'année?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'association? On peut faire plein de choses. À l'heure d'aujourd'hui, l'association regroupe dans les Hauts-de-France une dizaine de membres. Et à l'heure d'aujourd'hui, on s'est développé un petit peu, on a grandi, on a poussé un peu les murs et on a recruté des membres un peu dans d'autres régions. On a des membres sur Paris, sur la Bretagne, dans le sud de la France et sur la Belgique, puisque aujourd'hui, dans l'association, le but étant toujours de pouvoir proposer la promotion de la culture du jeu partout, partout où on veut nous, partout où on nous accepte, que ce soit dans des salons, des festivals, des bars à jeux, des associations, dans des structures territoriales, puisqu'on agit maintenant nous aussi sur des centres aérés, sur des communes auprès d'enfants, prochainement dans des lycées, dans des collèges, puisqu'on était aussi sollicité pour ça. C'est un petit peu le leitmotiv de l'association. On se réunit, nous, en général, tous les deux mois au centre culturel de la ville pour y proposer des soirées jeux, enfin journées et soirées sur le samedi. Et après, on répond à chaque fois qu'on est sollicité par des partenaires qui veulent nous accueillir chez eux. Voilà.
Et c'est ouvert à tous?
Et c'est ouvert, évidemment, à tout le monde. N'importe qui peut rejoindre l'association, puisque... on est très gentil et on aime bien tout le monde. Donc...
on ne mord personne.
On ne mord personne. On a une équipe vraiment de... enfin, moi, j'ai des membres qui sont vraiment très dévoués, qui sont tous, tous attentifs et soucieux de vraiment bien faire. À l'heure d'aujourd'hui, au sein de l'association, on a une branche associative qui est vraiment des animateurs. Et après, on a des gens qui sont juste, je dirais, des joueurs qui viennent là pour jouer, pour s'amuser. Nos animateurs, eux, sont... comment dire, sont des gens qui sont un peu plus triés sur le volet, puisque quand on envoie des gens animés dans des salons ou chez des partenaires, on veut vraiment faire une, enfin, donner une belle image de ce qu'est le Ludigeek et du label qu'on a créé. Et donc, en fait, chacun de nos amis animateurs a signé une charte qu'on a tous écrit ensemble sur la qualité et la responsabilité d'animer et de faire de la promotion du jeu, en fait. Voilà.
Je peux témoigner qu'effectivement, j'avais pu participer à une des premières réunions de préparation de cette édition du Geek, il y a quelques mois maintenant, et j'étais étonné la passion et les idées qui émanaient de tous les gens présents autour de la table. C'est vraiment une super équipe que tu as, et on va encore pouvoir... J'ai hâte de retourner au festival pour les rencontrer à nouveau et voir toute l'organisation.
Oui, j'ai hâte de vous revoir aussi. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer en plus. C'est toujours un agréable moment. Même si lors du festival, je suis un petit peu partout. Je cours dans...
ah, mais c'est pour ça.
J'ai 5 casquettes et je dois être à 3 endroits en même temps.
C'est pour ça qu'on on va pas raconter comment on a galéré pour se retrouver en rendez-vous pour cette émission. Mais c'est ça, c'est avec les gens. Mais d'un autre côté, si nos invités disaient « Oh, moi j'ai tout le temps devant moi pour venir parler », je dis « Ah, c'est peut-être parce qu'il a pas tant de choses que raconter ». Et quand je sais que Mike, je dis « Oh, on va galérer pour réussir à le coincer entre deux rendez-vous », je dis « C'est justement parce que je sais qu'il fait plein de choses, qu'il est partout, que ce week-end il sera encore à des festivals ou qu'il a passé toute l'année pratiquement avec ses diverses activités sur les festivals à rencontrer des gens, à partager sa passion. Et c'est pour ça qu'on est ravis de l'avoir.
C'est un bon résumé, puisque il y a une question qui me fait toujours, sourire, c'est que on me dit souvent, mais qu'est-ce que tu fais toi dans le festival, enfin lors du festival, tu fais quoi? Je regarde les gens, je dis bah en fait je fais rien. Et les gens me disent ça tu fais rien, mais je dis bah non, en fait je ne dois rien faire pour pouvoir faire tout ce qui doit être fait autour et veiller à ce que les choses se passent bien et qu'on ne voie pas qu'il y a quelque chose qui coince ou qui ne va pas. Donc en gros, moi je ne peux pas être une table de jeu, même si j'adorerais animer tout le festival et passer du temps en table avec les gens jouer, mais malheureusement pour moi je ne peux pas, parce que j'essaie d'être partout et de répondre à toutes les demandes, les sollicitations des gens présent sur le festival.
Tu es le téléphone rouge dans tous les domaines, donc dès qu'il y a un problème ou que ce soit, on sait qui appeler.
En général, oui. En général, enfin, si vous me voyez au festival, vous me verrez, j'ai souvent mon téléphone à la main, parce que comme il y a du bruit, bah, les gens, bah, je leur dis, bah, bipez-moi, ça sera beaucoup plus simple. Et bon, j'essaie de faire au mieux, et bon, voilà, quoi. Je me dévoue. maximum, tout comme les membres de l'association qui, eux, bah, de leur côté, font un travail aussi phénoménal sur l'animation, parce qu'il faut quand même le faire, animer pendant deux jours comme ça un festival et en enchaînant divers jeux, parce qu'ils ne se contentent pas d'animer qu'un seul jeu. En général, par animateur, on tourne sur 3-4 jeux différents par animateur sur le festival, et c'est quand même assez fatigant, et je tenais à le souligner et à les remercier encore une fois.
Je voulais rappeler qu'en plus du festival, tu es aussi représentant pour Mythic Games, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ça t'amène à parcourir les festivals à travers la France, à travers le monde peut-être aussi. Est-ce que dans tous tes voyages récents, tes déplacements, est-ce que tu as, je sais pas, des coups de cœur, des bonnes surprises, des découvertes à nous faire partager ?
Alors oui, je travaille toujours... main dans la main avec les dirigeants de Mythic Games depuis maintenant 4 ans. Là, à ce jour, je suis passé. Alors, c'est des titres anglophones que les sociétés anglophones aiment. Donc, c'est senior manager au niveau de l'événementiel français. Donc, en gros, je suis en charge de gérer tout l'événementiel salon, festival pour Mythic Games en France et aussi en Belgique. Donc, ce qui m'amène à bouger pas mal et à gérer une équipe d'une vingtaine d'ambassadeurs pour Mythic Games, qui est une société française, mais qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de Kickstarter avec des jeux comme Joan of Arc, Solomon Kane, Rage Busters et récemment Super Fantasy Brawl. Donc je pense que les connaisseurs verront tout de suite de quoi je parle. Donc grâce à eux, en fait, je vais dire que sur les 4 ans avec lesquels j'ai bossé, j'ai fait des superbes rencontres. Je suis allé, j'ai découvert le Festival de Cannes, qui est franchement formidable, qui est un festival vraiment à faire une fois dans sa vie, qui est un petit peu la mecque du jeu où on peut découvrir toutes les nouveautés, vraiment plein de choses.
On s'y est vu cette année, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler parce qu'effectivement, tout le monde est très occupé, mais c'est vraiment un super festival.
Super prenant. Essen en Allemagne, qui est aussi qui est terrifiant, qui est vraiment qui est un monstre de festival.
C'est un peu la mecque du jeu. Hein.
Oui, pour moi, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, dans le top 3 des festivals, je dirais que je mettrais la Gen Con de San Diego, je mettrais Essen, je mettrais le Fiche de Cannes, et en quatrième position, je mettrais Ludigeek, bien évidemment.
Mais oui, à loin.
Forcément.
Execo avec Paris et Ludic. Voilà.
Oh, ça va.
Mais là, je manque d'humilité, je pense. Non, je ne veux pas décrier parce qu'il y a des gens qui font des choses très bien. Je pense à Ludinor qui ont un festival qui est aussi génial, que j'adore et j'y suis chaque année. Mais bon, c'est vrai que grâce à Mythic, j'ai fait des très belles rencontres. À l'heure d'aujourd'hui, s'il y a vraiment un souvenir mémorable que je garderai sans doute jusqu'à la fin de ma vie, c'est que grâce à Mythic et au réseau de contacts que j'ai pu faire, j'ai pu, entre guillemets, réaliser un rêve d'enfant qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que les plus anciens diront « Ah bah quand même !» J'ai pu rencontrer Michael Moorcock, qui est le papa et l'écrivain d'Elric.
Ah bah quand même
et de Stan. Voilà.
Ah oui.
Oui, et j'ai pu l'année passée le rencontrer dans les studios de Mythic Games à Paris, et de passer une journée complète avec lui et avec son épouse et Leonidas Vesperini sur des idées et peut-être de futurs développements de projets. Mais voilà, moi, je suis un grand fan de lui et j'ai toujours rêvé, j'ai pu le rencontrer. Donc, j'étais comme un enfant qui découvre Disneyland, je pense, la première fois. Et voilà, j'étais vraiment ébahi. Et depuis, j'entretiens une correspondance assez régulière avec lui. Et voilà, je crois que c'est mon plus beau souvenir, je pense, à l'heure aujourd'hui, avec moi. Voilà.
Et encore plein de souvenirs à venir, ça, c'est sûr. Ok. Alors. Donc on va rappeler les dates. Le week-end prochain, Ludigeek à Luin, à la salle du Manège. Donc samedi 16, 18-19h. Dimanche 17, 18-19h. C'est gratuit. Et vous pouvez même repartir avec des cadeaux si vous avez un petit peu de chance. Ou si vous connaissez un petit peu Harry Potter éventuellement.
C'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a des partenaires? Parce que je sais que les gens ont souvent... l'oubli de remercier certains partenaires. Je t'en laisse cette occasion.
Alors, je vais remercier, puisque c'est des petites exclusivités qu'on aura, je vais remercier Funforge qui nous a confié un prototype d'un jeu qui va arriver là sur Kickstarter là, dans une semaine. Funforge nous a confié un prototype. On aura la chance de pouvoir vous le présenter lors du Ludigeek Festival. Je remercie aussi Bombix qui nous a envoyé Conspiracy, qui est un jeu qu'il développe. On va pouvoir vous le proposer, donc je les remercie. Alors, j'ai essayé de ne pas tous les oublier. Je remercie Le Droit de Perdre, je remercie Asmodée, FFG, Edge, je remercie Mythic Games, je remercie les TGCM, je remercie Gigamic, Ankama.
Est-ce qu'il a bien retenu sa leçon?
J'ai bien retenu mes sons parce qu'à chaque fois, chacun les oublie. Je remercie Yellow, je remercie Holy Grail, je remercie Lucky the Games, je remercie Blam, je remercie BlackRock, qui sont très gentils. Je remercie Matago, qui nous a envoyé plein de choses formidables aussi. Le Droit de Perbe, je remercie Ravensburger, qui est un très gros partenaire et qui est le premier à avoir signé le label Ludigeek, justement. Je remercie nos commerçants qui vont venir, à savoir Astro City, la librairie des Quatre Chemins, Japan Geek, Lille Otaku, Trésor de Sirène, Mademoiselle Koshka, le Ludibreak Café aussi. Je remercie l'instance 1e Légion, Solaris, Ténébris, qui sont aussi nos partenaires fidèles depuis qu'on a créé le festival. Voilà, c'est pas
toi qui oublie quelqu'un, c'est moi qui te coupe. Voilà, je te fais une fleur. Et c'est vrai que vous vous rendez compte, il y aura vraiment de l'animation dans ce salon Ludigeek. Donc vraiment à ne pas rater, c'est un rendez-vous.
Vous allez devenir accro de toute façon.
On commence à être habitué, on va prendre notre carte de membre pour avoir un VIP pass.
Non mais on a vraiment hâte de vous revoir, en tout cas ce sera vraiment un plaisir, et puis on a hâte de rencontrer toutes les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre cette année, et puis ceux qui nous suivent depuis la première édition, et toujours dans le même esprit de vous accueillir simplement, humblement, et puis dans une bonne humeur, et de passer un agréable moment ensemble, et de nous permettre de vous faire découvrir ce qu'on aime, notre culture, et notre envie, notre passion en fait, voilà.
Voilà, Mike, sache que toi aussi, tu es toujours le bienvenu à Radio Campus, un dimanche de 18h à 19h dans notre émission. Donc voilà, si tu as un week-end,
un jour,
pour une fois, tu te dis c'est bizarre, aujourd'hui j'ai rien à faire, ce qui risque de pas d'arriver.
C'est pas possible.
Prochainement, mais on sait jamais. Ben voilà, tu sais que tu peux venir participer à l'émission, on a toujours des actualités geek en stock. Dom, un dernier mot ?
Merci encore, puis la semaine prochaine, de toute façon, on y sera.
La semaine prochaine, il n'y a pas de soucis, ça sera avec grand plaisir, les gars.
Et donc, les liens, les informations sur notre site, bien sûr. Et...
Voilà, sur le site Heureusement en France, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et aussi sur le site Ludigeek. Et allez sur leur page Facebook, sur le festival du jeu Ludigeek, pour retrouver toutes les informations, tous les partenaires, toutes les animations. Et voilà. Merci beaucoup, Mike.
Merci beaucoup, les gars. Vite.
Et on se dit à bientôt. Ciao.
À très bientôt. Salut.
Salut.
Alors, d'autres informations, puisque la semaine prochaine, on ne sera pas en direct de dimanche à 18h-19h, très important.
Radio Campus, tout le dimanche, est au festival, en direct au Festival Solidarité. Donc, on leur donne gentiment notre créneau horaire pour diffuser. Donc, on sera le samedi de 13h à 14h pour parler d'un autre festival encore. On ne va pas spoiler. Et sinon, on se retrouvera, bien sûr, on se croisera au Festival Ludigeek samedi et dimanche à Luin.
Et voilà, et d'ici là, on se quitte avec forcément du Lego
et du Harry Potter.
Allez, c'est parti. Et on fait place à l'écho des gnous, le logiciel libre en force.
À plus.